ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. Vous savez, dans les années 80, elle multiplie les succès. Premier prix de la chanson d'outre-mer en 1982, entre le titre de concerto pour la fleur et l'oiseau, double disque d'or en 1986 pour son album Pyro et pour le tube Collé Serré. Oui, c'est Jocelyne Béroa qui sera l'invité ce soir dans RM Show avec Jean-Claude Lartagnan. On dégage. Ce soir, c'est une émission spéciale. Roger Moutou se retire un peu. Il laisse Georges Le Nassagnon prendre le micro. L'interview, c'est avec la superbe Jocelyne Béroir. Attachez vos ceintures de sécurité. Ce soir, au décollage. Et là, nous sommes déjà en train de traverser l'Atlantique. Nous allons à côté de Guadada. Nous allons bien sûr passer vers Haïti, chérie, Guadeloupe, Martinique et consorts avant d'arriver à Africa Bambaata. Attachez bien vos ceintures de sécurité, les amis. Tout de suite, on décolle. Ah ouais, que de la bonne musique. Hein.
Alors, on a dansé souvent notre musique, voilà, on se voit. Et aujourd'hui, un immense bonheur, un plaisir de vous parler.
Le plaisir est partagé. J'aime beaucoup échanger, justement, raconter un petit peu le parcours.
Oui, bienvenue sur les ondes de la Voix de l'Amérique.
Merci beaucoup.
Alors, vous êtes né en Martinique, il y a de cela plusieurs années, hein?
Exactement, je suis né en Martinique, voilà.
Alors, dans les Caraïbes, souvent on dit Anouale, c'est ça?
Oui, Anouale en Martinique, Anouale en Guadeloupe, voilà.
Ah oui, Anouale donc, Anouale à tous ceux qui nous écoutent.
C'est de la Guadeloupe, c'est le créole guadeloupéen, Anouale c'est le créole martiniquais, voilà, comme ça qu'on dit.
Voilà, donc on peut dire, pas se tromper, Anouale à tous ceux qui nous écoutent en Martinique et partout dans le monde.
Oui, on peut dire ça, puisqu'on va passer un petit moment ensemble, donc Anouale.
Anouale, merci, bienvenue, en tout cas, ça nous fait chaud au cœur de vous parler. Alors, vous êtes artiste, chanteuse, en même temps, vous êtes cinéaste et vous vous essayez aussi au théâtre.
Disons que j'ai fait du cinéma, je ne suis pas cinéaste, je suis plutôt un petit peu comédienne, je crois que quand on est artiste, on est aussi... on peut être comédienne aussi, enfin quand on est chanteuse, je veux dire, comme on raconte une histoire dans nos chansons, je veux dire, les gens en face doivent ressentir ce qu'on raconte, doivent ressentir l'émotion qui est véhiculée par le texte. Donc on est quelque part un petit peu comédien, donc on m'a proposé plusieurs fois de tenir des rôles au cinéma et au théâtre, et ça m'a beaucoup amusée, parce que ça me permettait de connaître un petit peu mes limites, parce que bon, on a toujours besoin d'apprendre tous les jours, et ce sont chaque fois des challenges qui sont intéressants, voilà.
Comment vous parvenez à concilier les trois?
De toutes les façons, tout le monde sait que Kassav est la priorité. Donc c'est uniquement quand Kassav a des temps morts, je veux dire des moments de pause, que je peux aller m'essayer ailleurs. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Jocelyne Béroy a raté sa vocation? Vous aviez vocation de devenir, plutôt quand vous étiez à l'école, vous aviez envie de devenir pharmacienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, non, mais on ne peut pas parler de raté. Je pense que, en fait, l'éducation que j'avais ne m'autorisait pas à imaginer être artiste. Parce que, bon, il ne faut pas oublier qu'on vient de deux toutes petites villes, Martinique et Guadeloupe. Je veux dire, la Martinique a 80 km de long. Il y a moins de 400 000 habitants, en tout cas, environ 365 000 habitants. Rêver d'être artiste là-bas, c'est rêver de mourir de faim, quelque part, pour nos parents, en tout cas. Pas pour nous. Je crois que c'est quelque chose qui vous appelle à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, mon éducation ne me permettait pas, ni d'ailleurs, l'environnement global. Je veux dire, c'est nous, les autres venaient faire des concerts, mais nous, les musiciens jouaient essentiellement dans les balles. Donc notre musique était cantonnée au bal, quelque part, entre guillemets. De temps en temps, il y avait des concerts, au moment du carnaval, par exemple, il y avait des concours de chant, des choses comme ça. Mais en général, c'était les autres qui étaient autorisés à être sur scène et à faire des trucs. Et nous, on faisait du bal, quoi. Voilà, c'était la réalité du pays. Donc, être chanteuse à cette époque-là, je veux dire, c'était impensable. Bon, quand on regardait le cinéma, on ne se voyait pas au cinéma. Les années, parce que bon, moi, j'ai pas peur de dire mon âge, je suis née dans les années 50. Je veux dire, dans les années 50-60, on voyait pas beaucoup de noirs à la télé. Le premier qu'on a vu, ça a été Sidney Poitier avec Devine qui vient dîner. Donc bon, en général, on voyait pas de noirs. Si on les voyait, ils avaient des rôles vraiment subalternes. En tout cas, ils n'avaient pas les premiers rôles dans les films. Donc, il nous était interdit de rêver d'être acteurs quelque part. Évidemment, moi, j'aimais les sciences, donc je suis partie vers un métier scientifique. Mais je crois que le destin est plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Et à un moment, j'ai pour habitude de dire, d'ailleurs, la musique a volé ma vie. Je crois que c'est la musique qui m'a happée. Elle a dit, bon, tu vas arrêter de fuir, je te tiens et je te garde. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Mais il faut dire que quand j'étais petite, j'avais déjà l'âme artistique. Bon, mon père était sévère, on n'avait pas le droit de sortir, tout ça. Donc, pour me détendre, pour ne pas, comme on dit, péter les plombs, pour garder la tête un peu sur les épaules et rester gay et compagnie, je dessinais beaucoup, je peignais, je faisais de la photo, puis j'aimais chanter. Donc, c'était ma façon de m'évader. Quand toutes mes copines allaient danser, ben moi, je dessinais. Voilà. Donc, j'avais cette fibre artistique en moi, ce qui fait que bon, même mon choix en fait de pharmacie était lié à ça. Je m'étais dit que bon, faire médecine, comme j'étais intéressée par le corps humain, j'aurais voulu faire de la recherche. J'aurais jamais eu le temps. Au départ, je savais que j'aurais pas eu le temps de faire de la musique ni faire du dessin. Alors qu'en étant pharmacienne, derrière mon comptoir, je pourrais griffonner. En fait, j'avais imaginé ça, quoi. Je connaissais, je savais pas trop ce que c'était qu'être pharmacienne. Et donc, c'est parti faire la pharmacie parce que je pensais, j'imaginais que j'aurais eu le temps de continuer à faire une forme quelconque d'art, quoi. Et puis, bon, j'ai eu deux accidents, un accident de voiture et puis une infection des yeux qui ont eu raison de mon désir d'être pharmacienne. Et j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit que c'était pas pour moi, que je voulais faire autre chose. Donc, je suis partie à Paris faire les beaux-arts. Et arrivée à Paris, évidemment, je tombais dans la gueule du loup. C'est-à-dire que j'ai rencontré des musiciens qui m'ont demandé de venir faire d'abord des petites prestations, de faire des choses en studio avec eux, etc. Et je me suis retrouvée musicienne à temps plein, alors que c'était pas du tout
la vocation.
Non, c'est pas une histoire. Je pense que c'était ma vocation, mais ce n'était pas dans mes plans. Voilà.
Et vous avez même essayé un peu avec des Américains, n'est-ce pas? Vous avez fait un tour en Jamaïque avec la musique, n'est-ce pas?
Quand j'ai commencé à chanter, j'étais d'abord choriste. Je chantais évidemment du jazz, de la bossa nova et des bigines et des choses comme ça dans les piano bars. Mais ce qui me rapportait le plus pour vivre et payer mon loyer, c'était mon métier de choriste. J'étais choriste professionnelle, donc je travaillais derrière pas mal de gens. Ce qui fait que comme je connaissais à l'époque, je connaissais plein de gens dans le milieu du reggae, Peter Tosh, les Third World, les Cimarrones, etc. J'allais tout le temps en Angleterre, j'ai rencontré donc plein de gens. Et il y a une jeune femme, Rima Marquez, qui travaillait donc avec Chris Blackwell à l'époque et qui avait aussi des connexions en Jamaïque, qui m'a dit Lipéry cherche d'autres personnes, enfin des personnes non jamaïcaines pour venir travailler avec lui en Jamaïque. Et j'ai dit ok, j'y vais. Comme j'aimais les Antilles, mon rêve c'était de partir un peu dans toutes les îles, aller en Jamaïque. Si je n'avais pas saisi cette opportunité, peut-être que j'aurais jamais fait. Donc j'ai plongé sur l'occasion et j'ai travaillé avec Lipéry, voilà.
Vous aimez le soleil aussi, n'est-ce pas?
Qui n'aime pas le soleil? Je veux dire, bon, évidemment, on n'aime pas les trop grosses chaleurs, mais le soleil, de toute façon, c'est quelque chose qui régénère, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. C'est quelque chose dont les plantes ont besoin et dont l'homme a besoin aussi. Voilà. Donc, le soleil,
c'est... Oui, est-ce que c'est pour cela que vous préférez la couleur jaune?
Ah, j'aime toutes les couleurs en fait. Hein. J'aime toutes les couleurs. Maintenant, en scène, je trouve que le jaune pétille, quoi. C'est une des couleurs en fait qui fonctionne assez bien avec le blanc et le noir, évidemment, parce que le noir il va absorber toutes les lumières, mais le blanc va prendre toutes les gammes de lumière qu'on peut envoyer sur vous. Et le jaune n'est pas trop. Ne varie pas trop, alors que quand vous mettez du vert ou du rouge avec d'autres couleurs de lumière, ça peut changer. Donc je pense que le jaune est assez pétillant, c'est un peu ma nature. J'ai toujours aimé, j'aime quasiment toutes les couleurs, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le jaune, le noir, le blanc, voilà, donc, le bleu marine, voilà.
Et justement, dans un de vos clips, on vous voit, je ne sais pas si c'est en Martinique, au bord de l'océan Atlantique, un beau matin, au lever du soleil donc, et vous chantiez en deux.
C'était à la mer des Caraïbes, pas l'océan Atlantique.
C'est à la mer des Caraïbes, et vous demandez au soleil de montrer le chemin du retour.
Ben, ça a été ma première. Ça a été ma première chanson interprétée en live avec Kassav. C'était pas moi qui l'avais chantée au départ, c'était Freddy Marshall. Et en fait, comme Freddy ne faisait pas partie du groupe, on m'a demandé, donc il fallait me donner une chanson à un moment, parce que les Jacob, Georges, Pierre-Édouard, en fait, tous les musiciens de Kassav savaient que je pouvais chanter en solo. Donc ils m'ont un peu testé avec Soleil, ils m'ont donné cette chanson-là et elle est restée une de mes chansons phares.
Et oui, moi j'ai beaucoup adoré. Ça fait partie de quel album?
Alors, la toute première version date de 1980. J'étais en tant que choriste à ce moment-là dans Kassav, et on a repris une version avec ma voix en 1987 au moment de la signature avec Sony Music.
Donc voilà, le soleil, l'album Soleil, c'est votre, enfin, ou le morceau Soleil, c'est l'un de vos morceaux phares, disons-le comme ça, et ça fait partie du premier album, vous l'aviez dit.
Oui, le morceau Soleil avait été interprété, sur le deuxième album de Kassav en 1980 par Freddy Marshall. C'était un homme qui l'a chanté en premier. Et ensuite, quand j'ai intégré CASAP en 1983, bon, en 80, j'avais fait les chœurs avec CASAP. Mais comme je travaillais avec d'autres personnes, j'ai pas pu continuer avec eux. Et donc, en 1983, j'étais enfin libre. Et donc, j'ai pu intégrer le groupe CASAP. À ce moment-là, ils se sont dit, bon, Jocelyne peut chanter en solo, on va lui donner un titre à chanter. Et donc, on m'a demandé, justement, de chanter Soleil. Et j'ai chanté Soleil, et ce titre-là est resté un de mes titres phares. C'était le premier que j'ai chanté, que j'ai interprété en solo avec CASAP. Et on a repris ce titre-là avec une nouvelle version en 1987, au moment de la signature avec Sony Music. Voilà.
Justement, vous avez donc levé le lièvre, on va le pourchasser. Vous parlez de CASAP. Comment l'histoire a commencé avec CASAP? On parle de 1979, il y en a qui parlent de 80.
Alors,
votre aventure avec CASAP, oui.
L'histoire de CASAP commence probablement en 78, parce que c'est Georges, Jacob et Pierre-Édouard, ils commencent à discuter justement de cette idée de créer un groupe qui pourrait créer une nouvelle musique, qui pourrait essayer de trouver un nouveau style et compagnie. Et en 1979, le premier album de CASAP sort. Et là, je ne suis pas dedans. En fait, je ne les connais pas, je ne suis pas dedans. Mais je répète dans un studio, et c'est dans ce même studio, Pierre-Édouard et Georges ont la clé. Donc ce sont eux qui viennent ouvrir le studio pour que je répète avec un groupe avec lequel je me produis à ce moment-là. Donc je le rencontre à ce moment-là, ils m'écoutent et ils se disent on va inviter Jocelyne à faire les chœurs du deuxième album. Donc en 1980, ils m'appellent pour venir faire les chœurs de l'album de 1980. Mais c'est un homme qui chante à ce moment-là, c'est Freddy Marshall. Sur le premier album, c'était un autre homme qui chantait aussi. Il n'y avait pas de femmes, mais il y avait les femmes au chœur. Donc sur les deux premiers albums, les femmes sont toujours au chœur. Donc je fais les chœurs avec ma sœur. Et puis en 81-82, je joue avec les Gibson Brothers de 1980 à 81 à peu près. Ensuite, je rejoins Bernard Lavilliers en 81-82 à peu près jusqu'en 83-84. Donc comme j'étais libre en 83 pour une tournée avec CASAP, ils m'ont demandé de venir avec eux à cette tournée-là. Et donc à cette tournée-là, ils ont vu ce que j'étais capable, ils ont vu mon caractère, parce que bon, ils testaient les gens aussi pour savoir qui peut faire partie du groupe et qui peut pas faire partie du groupe. Donc en 1983, la première expérience avec eux fonctionne. Ils sont contents de ce que je fais, de mon caractère, de ma joie de vivre et compagnie, et peut-être de ma personnalité. Donc ils me rappellent, à partir de ce moment-là, ils me rappellent régulièrement, et donc j'intègre CASAP à partir de 1983. Voilà.
Vous êtes depuis avec CASAP et ça se passe plutôt bien.
Ça se passe plutôt bien. Bon, je crois que je suis très bien entourée, puisqu'il y a quand même des gens qui ont une grande connaissance de la musique, comme Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Martelly, Pierre-Édouard, Georges Lessémus, Jean-Claude Nembo, Claude Vamur à la batterie, tout ça. Bon, ce sont des gens qui ont plus... Certains ont fait des études de musique, d'autres sont des musiciens qui se sont faits tout seuls, quoi, comme Jacob. Jacob, par exemple, quand il a commencé, il faisait des arrangements pour plein de gens avant. Il faisait de la musique, il faisait du rock'n'roll, il faisait du R&B, toutes sortes de musique, etc., et de la musique africaine aussi. Il faisait des arrangements pour les gens, donc il a appris tout seul le solfège pour être capable d'écrire des partitions pour les cuivres et des choses comme ça. Donc en fait, j'étais entourée de gens qui continuaient à m'apprendre en fait mon métier de musicienne, parce qu'en fait, je chantais comme ça, quoi. Je m'amusais. Alors j'ai pris quelques cours de chant avant de rentrer dans CASAP. Je faisais partie d'un groupe et les membres du groupe m'ont dit, bon, écoutez, il faut qu'on prenne des cours de chant pour se perfectionner et tout. Donc on est allé apprendre à respirer, à mieux placer la voix et tout. On a pris quelques cours de chant, donc on avait des bases. Et avec eux, j'ai appris d'autres choses, c'est-à-dire que je commençais déjà à écrire des textes de chansons. Donc comme eux, ils composaient, que moi, j'étais moins douée en composition, je pouvais participer en fait à des recherches pour des mélodies, par exemple, parce que bon, quand on gratte sur la guitare, vous entendez 3-4 accords, l'un à la suite de l'autre, ça peut vous inspirer une mélodie. Donc je participe un petit peu à ça, mais mon travail dans CASAP a été essentiellement sur l'écriture de textes. Donc l'écriture de texte, c'était un travail qui était autre. Pierre-Édouard, lui, tenait à ce qu'on utilise notre langue propre, qui est le créole. Donc, donne toute sa noblesse, quoi, parce que le créole est considéré par les gens de chez nous comme étant le patois, en fait, c'est-à-dire la langue de celui qui ne savait pas parler les langues normales comme le français, l'anglais, etc. Et donc, c'était considéré comme la langue du vulgaire, comme la langue de celui qui n'a pas d'éducation, etc. Et nous, notre travail a été de donner au créole, justement, une poésie pour qu'elle puisse atteindre toutes les strates de la société. Et je crois que les gens, au fur et à mesure, ont constaté qu'effectivement, les textes, on tâchait en tout cas de faire de la recherche, de trouver justement des formules qui puissent mettre le créole à peu près au niveau de toutes les langues dans lesquelles on parle. Donc, on considère compétence celle destinée à la poésie, parce que par exemple, les chansons gays, les chansons, en fait, je veux dire, de tous les jours, en créole, ça gênait personne, mais les chansons d'amour, souvent, étaient en français. Parce que les gens considéraient que le créole n'était pas suffisamment précieux pour parler de ce sentiment qui est si beau, si grand, si... Et donc, c'est le contraire. On a prouvé qu'on pouvait utiliser cette langue pour pouvoir parler de choses... De la beauté, tout simplement, de ce monde, quoi.
Dites-moi, est-ce que c'est le créole ou le cassave qui a servi de connexion entre les Antilles, les Caraïbes, l'Afrique et le reste du monde? Parce que la plupart de vos chansons sont en créole.
Oui, non, je crois que c'est surtout la musique qui a servi de connexion. Les paroles, ensuite, les gens ne comprennent pas toujours. Mais je veux dire, combien de personnes comprenaient les paroles de Michael Jackson et l'aimaient aussi? Je crois que la musique est le langage premier qui crée des connexions. Je veux dire, la personne, elle ressent la musique. La musique, elle est gaie, la musique l'entraîne, la musique lui donne de l'énergie. Alors, la personne qui chante par-dessus, elle transporte une émotion. Cette émotion-là, on la capte ou on ne la capte pas. Voilà, c'est comme ça. Et donc, quand vous chantez dans une langue étrangère, moi, il m'est arrivé d'écouter des chansons où je ne comprenais pas un traître mot de ce que chantait le chanteur, et je pleurais. Parce que l'émotion qu'il dégageait entraînait cette émotion directement chez moi, sans même comprendre de quoi il parle. Donc, je pense que la langue n'est pas une barrière, mais la musique est l'élément premier qui fait que bon, l'autre en face, il reçoit quelque chose qui lui va directement dans l'enfant. Voilà.
Alors, donc, on est d'accord que c'est la musique qui est l'élément premier qui connecte les peuples, qui connecte, disons, les chanteurs avec leurs fans, c'est ça?
Absolument, absolument. Je crois que la musique a toujours fait partie de la vie de l'homme, quoi. Enfin, à partir du moment où les gens ont commencé à entendre le bruit du vent, le bruit de la mer, les animaux, les cris des animaux et compagnie, il y a un moment où ils ont eu envie d'exprimer leurs sentiments avec
communiquer.
De communiquer avec ça. Donc, il y a eu le langage d'abord et la musique de toute façon, je pense qu'elle a dû arriver longtemps. Ne serait-ce que quand on parle, j'ai vu justement dans un, c'est pas un documentaire, mais j'ai vu un espèce d'article sur ça, où quelqu'un, par exemple, je vous parle, ça fait ta-da-dan. Ce sont des notes. Alors, quelqu'un avait pris un discours d'Obama, un discours de je sais pas qui, etc., et avait créé carrément une mélodie à partir du discours. Donc, ne serait-ce que quand on parle, on a justement des intonations et on utilise donc des notes, puisque ce sont des vibrations qui se trouvent à des moments, dans des hauteurs particulières. Donc, là, c'est une vibration, je veux dire. Et cette vibration-là correspond là. Donc, au niveau du langage, déjà, il y a de la musique quand on parle. Donc, automatiquement, c'est étonnant que l'homme, au fur et à mesure, ait fait et créé directement des mélodies aussi pour pouvoir adoucir ou calmer les sentiments de celui qui se trouvait en face, quoi. Voilà. La musique, c'est un langage complètement universel et qui permet aux gens peut-être de se comprendre, de s'apprécier.
Alors, quand je vous dis Sivo, c'est quoi pour vous? Sivo?
C'était mon premier album en solo avec les gens de Cassav. C'est-à-dire que quand on parle de solo, souvent les gens avaient l'impression que quand on faisait un album solo, qu'on avait quitté le groupe. Non, moi j'ai fait l'album solo avec le groupe, dans le groupe. Et évidemment, comme il faut choisir un nom à un album, donc on a donné le nom Sivo parce que la chanson phare, si je peux dire ça, parce qu'en fait il y avait deux grosses chansons qui étaient phares, c'était Caïmango et Sivo dans cet album. Voilà.
Et tu vous dis quoi? C'est en créole, c'est ça, Siwo?
Oui. Bon, alors, au départ, en mot à mot, Siwo veut dire le sirop, c'est-à-dire la chose sucrée. Donc, quelque chose de sucré. Et en fait, Siwo est une espèce de taquinerie, quelque part. C'est une taquinerie de ma part, parce qu'en fait, j'entendais, de toute mon enfance, j'entendais les hommes, quand ils parlaient des femmes, ils disaient « Moi, je veux une femme douce comme du Siwo. » C'est en créole, on dit « douce comme Siwo. » C'est-à-dire qu'ils voulaient une femme douce, aimante, etc., etc., etc. Et moi, à un moment, j'ai dit « Pourquoi les femmes ne pourraient pas dire aussi qu'elles veulent un homme qui soit doux et aimant, etc. ?» Mais être doux ne veut pas dire être... manquer d'énergie, ne pas avoir de son autorité, quoi, je veux dire, mais reconnaître aussi l'autorité de la femme. C'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est que, en fait, c'est pas, je dis pas que l'homme est l'égal de la femme, on est complémentaire, mais en tout cas, on est au même niveau. C'est-à-dire que comme on est complémentaire, il faut pas que l'un domine l'autre et il faut pas non plus que l'un écrase l'autre. Voilà. Donc l'essentiel, c'est arriver à s'entendre, parce que, bon, en fait, je crois que la famille, déjà, le couple, c'est la base de la société. La famille, ce sont des mini-sociétés, et surtout quand elles sont nombreuses, on voit un petit peu comment il faut faire pour pouvoir faire plaisir à tout le monde en même temps. Quand on se retrouve après en société, ben, c'est pareil. Je veux dire, les gens sont différents. Ils pensent différemment, etc., etc., etc. Donc, bref, je reviens à mon histoire de Siwo. C'était donc cette taquinerie qui disait à l'homme, mais attends, tu peux effectivement avoir toute ton énergie, être debout, penser à demain, etc., mais respecte aussi ce que moi je dis, respecte qui je suis, etc. Et l'homme Siwo, ma description d'homme Siwo, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui est aimant, qui respecte la femme.
Ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
Cette superbe interview de Georges Léonard Sagnon et Jocelyne. On continue en deuxième. bien parti dans quelques secondes. N'allez nulle part en tout cas. God bless. Peace Africa. Saviez-vous que Jocelyn est la première femme antillaise à obtenir un disque d'or? Peut-être vous ne le saviez pas. Aïe, aïe, aïe. Avec des morceaux comme celui qu'on va écouter tout de suite, que je propose bien sûr, je salue en passant Jules Jean qui nous dit Roger, moi je vous capte toujours à partir d'Haïti, chérie, point à pitre. On est ensemble, on écoute la musique. Et bien sûr,
mais c'était occasionnel, je n'appartenais pas véritablement à un groupe avant et je n'étais pas non plus une chanteuse en solo confirmée, donc je veux dire avec Kassav j'ai appartenu à un groupe et je suis devenue avec Kassav en étant dans Kassav ce que je suis aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire une chanteuse qui peut chanter en solo et donc je crois que tous les éléments du groupe ont tous grandi et sont devenus ce qu'ils sont en étant, justement, en faisant partie de ce groupe-là.
Justement, en parlant de Kassav et de Jacob qui nous a quittés il y a quelques mois, alors, comment avez-vous vécu cette perte? Ça a été difficile pour vous et pour le groupe, hein?
Ben, de toute façon, je crois que dès qu'il y a un départ, c'est jamais très simple, c'est toujours tellement abstrait. Bon, je veux dire, c'est dire que on ne va plus voir la personne. Il faut le temps. Il faut le temps de pouvoir avaler cette blague. Et puis, parce que moi, je veux dire, les premiers temps, on est abasourdi. Je veux dire, bon, évidemment, on est peiné, ça c'est clair, mais on est surtout en train de se dire, mais c'est quoi cette affaire, quoi. Donc, au fur et à mesure, on s'habitue à l'absence, et puis on avance, parce que la vie continue, de toute façon, et qu'on n'a pas, le choix. On ne peut pas... Jacob manque à tout le monde, à tous les gens du groupe. Chaque fois que je discute avec eux, ils sont gênés de ne pas pouvoir l'appeler pour lui parler de quelque chose, d'un projet qu'il a, ou même lui poser une question sur un souvenir, sur un truc, sur, je ne sais pas. Je veux dire, ou lui demander son avis. Je veux dire, parce que comme ça, on fonctionne toujours comme ça, en fait, pour la plupart des gens de ce groupe-là. On s'appelle régulièrement, on se discute d'un tas de choses, on se met d'accord sur des plans à venir. Je veux dire, on a toujours fonctionné comme ça. Donc évidemment, quand il manque un élément, c'est terrible. Voilà.
Oui, il n'y a pas que Jacob. Il y a, avant Jacob, on a perdu Patrick Saint-Gelois.
Oui, mais Patrick avait déjà quitté le groupe. Il avait quitté le groupe en 2002 et il est mort 8 ans. Je veux dire, évidemment, ça bon, nous a bouleversés, ça c'est clair, parce qu'il est resté 20 ans à Qatar quand même, et 8 ans à peaufiner sa carrière en solo. Je crois qu'il en avait vraiment besoin, et il a peut-être eu raison de faire ça au moment où il en avait envie. Voilà, donc alors, évidemment, quand il a quitté le groupe, ça nous a un peu déroutés, mais on était quand même suffisamment nombreux pour pouvoir continuer sans que ça ne se sente trop fortement. Je veux dire, bon, les gens qui font de la littérature sur ce qui était mieux, ce qui n'était pas mieux, ça c'est leur problème, quoi. Je veux dire, mais quand on fait partie d'un groupe, je veux dire, les premiers temps de départ de quelqu'un, il y a un déséquilibre qui se crée, mais il faut réussir à remonter la pente assez rapidement pour que justement ça ne joue pas sur le groupe, quoi. Et je pense que dès les premiers concerts, bon, les gens ont été contents, tristes de ne pas avoir Patrick, mais contents de voir que Qatar continuait. Je veux dire, quand Patrick est mort, ça a été une grande douleur pour tout le monde, puisque c'était quand même notre frère et qu'on avait gardé de vrais rapports, on était resté quand même... on regardait, quoi, on suivait Patrick. On a fait ses deux albums, les deux albums qu'il a fait après avoir quitté Qatar. On a chanté avec lui, on a participé à ces albums-là, donc on avait quand même toujours des relations. Voilà, quoi. Donc il n'y avait pas d'animosité. C'était son désir et on se devait de respecter ce désir-là.
Alors comment se dessine l'après Jacob?
J'en sais rien, je suis pas devin. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que de toutes les façons, c'est pareil, quoi. Je veux dire, bon, Jacob est parti, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses qu'on peut faire, c'est s'asseoir et pleurer ou bien se relever. Donc je pense qu'on a opté pour se relever. Maintenant, on est en train de réfléchir à savoir ce qu'il est bon de faire. Parce que la chose est que Jacob, c'est quand même un élément costaud du Qatar. Alors à la guitare, on peut toujours le remplacer, mais à la voix, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, il n'a pas une voix classique qu'on peut remplacer par n'importe qui. Donc c'est moins évident. En plus, bon, Jean-Philippe a fait un AVC l'an dernier, donc on attend qu'il se remette de cet AVC-là, etc. Donc pour le moment, on est dans un stand-by qui ne nous interdit pas de continuer à faire de la musique, qui ne nous interdit pas de continuer à faire perdurer Qatar, tout le travail de Qatar, etc. Donc imaginer des choses à faire pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, je crois que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Je veux dire, maintenant, se dire que bon, on va retourner sur scène en tant que Qatar, pour le moment, en plus avec le Covid, je veux dire, c'est pas encore au programme. Voilà.
Est-ce que vous envisagez faire une maison, si elle n'est pas déjà faite, une maison Qatar, un musée Qatar, je dirais?
De toute façon, ça fait partie des projets depuis très longtemps, depuis même avant le départ de Jacob. Je veux dire, l'unité question qu'on raconte, l'histoire de Qatar d'une façon ou d'une autre, donc un musée, des expositions itinérantes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être envisagées. Pas accès, je n'ai pas encore dit, parce que le musée, ça demande énormément de finances, donc il faut déjà trouver tous les partenaires pour ça. Donc quand on aura bien réfléchi, bien pensé, bien monté tous les dossiers. On verra comment on développe tout ça. Donc pour le moment, ce ne sont pas des choses à diriger. C'est pas comme ça pour acquérir. L'Afrique a été énorme pour beaucoup dans le succès de Kassav. Je veux dire, dans le retentissement du succès. Disons qu'on avait déjà du succès chez nous, dans la Caraïbe, mais quand on est allé en Afrique, vu que vous êtes beaucoup plus nombreux que dans nos toutes petites villes, les chiffres qui revenaient aux oreilles des organisateurs étaient beaucoup plus impressionnants. Parce que quand vous dites que vous faites 15 000 personnes en Martinique, c'est rien 15 000 personnes. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font 15 000 personnes quand même, hein. Mais on faisait quand même 15 000 personnes en Martinique ou en Guadeloupe. Je veux dire, c'est quand même 15 000 personnes sur 365 000 habitants. C'est énorme. Si on ne fait pas 64 millions, je ne sais pas combien ça peut faire, mais c'est aussi extravagant. Donc, ce qui veut dire que, mais quand vous arrivez avec 15 000 personnes en France, ça ne veut rien dire pour eux. Parce que eux, ils ne pensent pas qu'on vient d'une toute petite île. Pour eux, on fait 15 000 seulement. Donc, ce n'est pas impressionnant. Par contre, quand on revient avec 90 000 personnes, là, c'est impressionnant. Donc, ça c'est arrivé à leurs oreilles. Ils se sont dit, attendez, ils font des disques d'or. Alors, les disques d'or, ce n'était pas vraiment à l'Afrique qu'on le devait, parce qu'à l'époque, en Afrique, c'était beaucoup de piratage. Donc, on ne pouvait pas additionner le nombre de cassettes piratés qui étaient vendus en Afrique, on ne pouvait pas, donc on revenait avec des reventes en Afrique. Mais par contre, les concerts, il y avait 90 000 personnes. Et chez nous, avec nos toutes petites villes qui sont soumises au même quota qu'en France, parce qu'en France, ils s'adressent quand même à 64 millions de personnes, et ils demandent à un chanteur, pour avoir un disque d'or, de vendre 100 000 exemplaires sur 64 millions de personnes. 100 000 pour un disque d'or. Aujourd'hui, c'est tombé à 25 ou 50 000, je ne sais plus. Et là, et chez nous, dans 380 000 habitants en Guadeloupe, 360 000 en Martinique, on fait un disque d'or quand même. Donc ça pète la tête des gens, quoi. Donc au niveau des ventes de disques, on fait autant que des gens qui s'adressent à 65 millions. Et quand on va dans des continents où il y a des millions de personnes, on fait 90 000 personnes dans les stades. Ils ne peuvent pas rester insensibles. Donc automatiquement, on a été courtisés par les maisons de disques. Et comme tout tombait à point nommé, puisqu'on commençait à avoir des problèmes avec notre producteur en Martinique, qui nous avait quand même énormément aidé à développer notre musique en payant des studios de qualité pour nous. Je veux dire, il ne nous imposait pas d'enregistrer dans les petits studios que nous avions en Martinique. Nous choisissions des studios qui avaient vraiment de bon niveau, quoi, en France, à Paris, et il a accepté de payer ça. Mais en retour, il ne nous payait pas nos droits d'auteur, nos royautés, enfin, sur les ventes du disque. Donc à un moment, on était un peu fatigués. Et puis comme ce n'était pas un vrai producteur, Je veux dire, il n'avait pas une maison de disque avec une attachée de presse, etc., etc. On était obligé de nous occuper de tout, de la promotion, des clips, les sponsors, les machins. C'était nous qui faisions tout son travail. Et au bout du compte, on n'avait pas le retour, quoi. On n'a pas touché beaucoup d'argent, quoi, avec lui. on est resté quand même reconnaissant parce qu'il nous a aidé à atteindre le niveau qu'on voulait atteindre. Mais il fallait monter une marche supplémentaire. Et cette marche supplémentaire, il fallait qu'on soit avec une boîte professionnelle. On a signé avec CBS, qui est devenu Sony Music par la suite. On est resté avec eux jusqu'en 1982. Et depuis 1983, nous sommes notre propre producteur. Et nos albums sont distribués tantôt par celui-là, quoi, voilà.
Alors, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de l'Afrique?
Ah, il y a plein de beaux souvenirs en Afrique. Il y a plein de souvenirs géniaux. Moi, je veux dire, bon, le premier qui me vient là, c'est parce que j'ai vu une photo il n'y a pas longtemps. C'était en Côte d'Ivoire, on avait fait un concert pour des enfants et les enfants avaient envahi la scène. Ils voulaient nous embrasser, ils nous tenaient la main. Jacob, ils voulaient tenir la main de Jacob alors que Jacob jouait à la guitare. On fait des choses comme ça. Il y a des photos de ça. C'est absolument touchant de voir comment les enfants étaient aussi fanatiques que leurs parents, d'ailleurs. Ce sont de bons moments. Il y a eu des hauts et des bas, tout ça, parce que bon, en Afrique aussi, je veux dire, bon, ils avaient l'habitude de faire des concerts, mais bon, pas toujours dans les superbes conditions.
Les stades,
les promoteurs de spectacles, c'était des gens qui étaient fanatiques, quoi, qui avaient la bonne volonté, ils voulaient faire venir Qatar, mais ils n'avaient pas le métier. Donc il y a eu des petites galères comme ça aussi, et puis il y a eu aussi des galères parce que certains étaient des filous et qui partaient sans payer, etc., etc. Mais bon, ça existe dans tous les pays, hein. c'est pas uniquement en Afrique que ça existe aussi. Et puis il y a eu aussi des galères parce que certains étaient des filous et qui partaient sans payer, etc., etc. Mais bon, ça existe dans tous les pays, hein. C'est pas uniquement en Afrique que ça existe. Le public en Afrique, ça a toujours été vraiment des moments mémorables, quoi. Je veux dire, les gens qui ne connaissaient pas la langue se mettaient à chanter Douglas et Selvin Carmanouni comme ils pouvaient, et ils inventaient même quelquefois des paroles. J'ai mangé un demi-kilo de riz, quatre poissons, etc., etc. Donc chacun inventait son truc, mais recevait cette musique-là avec tellement d'amour qu'il nous renvoyait que bon, on ne pouvait nous qu'être heureux, quoi. Donc les bons souvenirs en Afrique, il y en a plein.
Avez-vous envie de faire un tour en Afrique très bientôt, dans les années à venir? Pas encore.
On y va assez régulièrement. L'année dernière, Jacob et moi, on était partis au Cameroun. On a fait une série de concerts avec un groupe qui n'était pas cantable. C'était des copains musiciens qui jouaient avec nous, des très bons musiciens. Donc on avait monté une petite formation pour aller faire des concerts au Cameroun. Et c'est souvent que ça nous arrive de partir comme ça et faire un concert ici ou là, quoi. Donc on y va régulièrement. On n'a pas abandonné l'Afrique et l'Afrique ne nous a pas abandonné.
bien de le savoir. Alors Joseline, avant qu'on le finisse, un mot sur les droits d'auteur, la piraterie, parce que souvent les œuvres sont piratées en Afrique, partout dans le monde. Est-ce que Kassab, dans votre cas, vous avez été victime? Ou Kassab, vous-même?
Ah oui, mais on en riait même quelquefois, c'est pas rigolo, mais on en riait quelquefois, parce que quand on sortait des hôtels, il y avait les petits jeunes hommes avec leur boîte de chaussures dans lesquelles ils avaient les cassettes qu'ils vendaient, je parle de ça, c'est dans les années 80, et on voyait, ils mettaient en avant nos propres albums, donc ils venaient nous vendre nos propres albums avec des... Et moi je disais, mais toi t'as du tout fait, tu viens me vendre mon album, et super, c'est un album piraté et tout. Et en fait, le problème c'est que bon, on sait pas quel type de mafia quelquefois il y a derrière ça, mais bon, quelquefois, c'est... Moi, quand je faisais des interviews, souvent, bon, les animateurs n'insistaient pas sur ça, mais je disais une chose, c'est que ça empêche aux artistes africains d'arriver en Europe avec des chiffres. Parce que quand on vous parle d'artistes qui viennent des États-Unis ou qui viennent de je ne sais pas moi, maintenant que la Corée avec la K-pop est devenue très populaire et compagnie, on vous dit ils vendent tant de millions d'exemplaires, ils vendent tant de millions d'albums, ils vendent tant de millions de ceci, de cela. Et on ne peut pas dire ça de nos artistes. Quand on pirate leur travail, ils deviennent populaires au niveau du public. Ils peuvent avoir du monde dans les concerts, mais quand ils arrivent, ils ne sont pas pris en considération parce qu'ils n'ont pas un nombre de ventes de réellement établi. Donc il y a ça déjà, le nombre de ventes qui permet d'avoir un passeport. C'est-à-dire que quand vous dites je vends 20 millions d'albums, vous êtes considéré comme quelqu'un. Parce que vous avez vendu 20 millions d'albums. C'est quand vous vendez 400 albums. Parce que les 400 personnes qui sont peut-être conscientes ont acheté votre album au prix normal, un album déclaré à la SACEM et compagnie, non seulement ça vous permet de recevoir des droits d'auteur, quand c'est déclaré, quand c'est quelque chose qui est fait dans les normes, vous pouvez toucher des droits d'auteur et vous pouvez également avoir cette carte de visite qui permet de savoir que vous êtes quand même un roi chez vous. Voilà, vous vendez des millions d'exemplaires. Donc, les gens automatiquement, ah bon, veillons, respect, tout de suite. Alors que quand vous arrivez avec peu de machins, on va dire oui, il remplit des salles. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que moi je vais mettre de l'argent dessus? Voilà, ça devient un sujet de discussion un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Donc, moi je crois que c'est surtout ça, c'est cette conscience-là qu'il faut avoir. C'est que dans la mesure, quand on consomme gratuitement, ou en prenant des trucs qui sont hors normes, le travail d'un artiste, on ne lui permet pas de vivre. On ne lui permet pas d'exister et on ne lui permet pas d'avoir le respect de l'autre. C'est ça aussi. Et chez nous, on est souvent mis à part parce que, bon, on n'a pas de chiffres. Mais chez nous, on est tout petit. Comme je vous dis, 80 km de long, 380 000 habitants. Je veux dire, si vous dites je vends 5 000 habitants, il faut toujours ajouter, mais mon île a 380 000 habitants. Donc, pensez le prorata, on voit à peu près ce que. Mais dans la Grande Afrique, je veux dire, c'est quand même triste que les artistes ne puissent pas venir avec le nombre d'albums qu'ils vendent. C'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Moi, je défendre ça, mais apparemment, c'était un peu compliqué de pouvoir contrecarrer le piratage. Quoi. C'était quelque chose de bien huilé, de bien en place, et je ne sais pas si ça a changé.
Vous avez été plusieurs fois décoré, vous avez fait beaucoup de collaborations avec l'UNICEF pour la protection des enfants, vous l'avez dit, hein, et donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de commentaire. Maintenant, comment pensez-vous vivre après Katav? Je veux dire, je sais que souvent les artistes n'ont pas de retraite, mais est-ce que Joseline pense à la retraite? Et si oui, où pensez-vous résider après la retraite? Ou quand vous allez prendre la retraite, est-ce en Martinique, en Afrique, quelque part, ou à Paris? Et que conseillez-vous faire après Katav?
Alors, je vais vous dire, on a le droit de rêver d'avoir la vie de gens normaux et se dire qu'un jour on sera à la retraite, mais je pense que pour les artistes, la retraite, ça n'existe pas. Je crois que tant que vous êtes en vie, les gens ont envie de vous entendre. Tant que vous êtes capable de chanter, de tenir sur scène, les gens ont envie de vous voir. Il faut y aller. Donc, je n'ai pas prévu de retraite. De toute façon, Si un jour je ne peux plus chanter, je ferai autre chose. Je ferai de la peinture, je ferai de la photo, je ferai autre chose. Je ne vais pas rester. La retraite pour moi, c'est se dire bon, qu'on n'a plus rien à faire. Bon, je veux dire, on peut marcher. Alors je vais voyager. Je vais faire quelque chose comme ça, mais je ne vais pas m'installer quelque part et dire que je ne bouge pas de là, je suis à la retraite, ça y est, j'attends quoi? J'attends la mort. Non, moi je crois que tant qu'on est en vie, on peut faire des choses, on peut faire plein de choses. Et la retraite, je veux dire, du point de vue, c'est un statut qu'on a à partir d'un certain âge. Donc normalement, moi, en principe, là, je suis déjà à la retraite. D'accord ? Mais ça veut dire que bon, je vais avoir un salaire de retraité par rapport à tout ce que mes fiches de paye m'ont permis d'obtenir, d'accord? Et mais malgré tout, je peux, en tant qu'artiste, justement, performeur, je peux continuer à chanter. Alors, je peux chanter à mon rythme, moins souvent qu'avant, moins machin, parce que bon, de toute façon, quand qui dit retraite dit âgé, au fur et à mesure, on marche un peu plus lentement, etc. Ce n'est pas encore tout à fait mon cas, mais bon, ça peut arriver un jour. Donc il faut se dire qu'à un moment, ça va se calmer. Donc c'est vrai que je serai une soi-disant retraitée, mais qui continuera quand même à faire des tas de choses.
Voilà ce qui est bien dit et qui nous amène à la fin. Donc, Joséline, en tout cas, ça a été un moment de bonheur, hein, un grand plaisir de vous avoir. La Voix de l'Amérique vous ouvre largement les portes. Si d'aventure vous êtes à Washington, n'hésitez pas à visiter nos locaux. Nous sommes à Washington DC. Mais justement, la Voix de l'Amérique fête en février prochain ses 80 ans d'existence. Un petit message.
Ah, 80 ans, c'est génial. Un petit message, ben, que ça perdure encore, évidemment, longue vie à la Voix de l'Amérique, puisque ça existe depuis plus de 80 ans. C'est que c'est nécessaire, c'est que les gens en ont besoin, donc que ça perdure longtemps, voilà.
Merci beaucoup. Alors, votre dernier message. L'ensemble des auditeurs, téléspectateurs, les gens qui adorent Joséline comme moi, et qui auront l'occasion de voir ça.
Mon dernier message, c'est que j'espère que dans mes chansons, j'ai permis à ceux qui ne peuvent pas voyager de voyager. J'ai permis à ceux qui ne croyaient plus que ce monde est beau, qu'ils ont pu voir un petit peu la beauté de ce monde-là. J'espère que dans mes chansons, j'ai pu leur apporter le réconfort dont ils avaient besoin. J'espère que... qu'ils ont encore du plaisir à écouter toutes nos chansons de Katav et que qu'ils sauront transmettre aux enfants qu'à une époque, il y a eu des fous qui ont parcouru le monde pour dire qu'ils venaient de deux toutes petites villes et que ces deux toutes petites villes existaient. Voilà, je crois que c'est ça mon message et je voudrais surtout dire merci à tous ceux qui nous ont aimés et qui nous aiment encore. Et tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore. Merci. Parce que sans public, l'artiste n'est rien.
Joséline Berroy, merci à vous. Ça a été un bonheur immense et au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Ok. À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Au revoir.
Avec Roger Mundou.
Georges Le Narsagnon et à Jocelyne Berroa pour cette superbe interview que vous écoutez seulement ici. Don't have to.
Là, je suis en train de siffler.
Aïe, 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 ça quitte à la, ça quitte à la. Au café d'où mettez ça.
Bon, là, je sais pas ce que je suis en train de dire. Je sais vraiment pas ce que je suis en train de dire. Ah non, j'adorais cette chanson quand j'étais tout jeune. Aïe, 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 ça quitte à la. Écoutez les amis, passez un bon week-end en compagnie de VOA Afrique. C'était votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique à Jablet.
C'était RM Show, une émission de VOA Afrique.